Et ce samedi, c'est une candidate à la présidentielle qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Oui.
Oui, bonjour Madame Laguiller, c'est Léa Salamé de France Inter.
Oui, je vous vote.
Merci. Bonjour monsieur. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous rencontrer, moi. Arlette Laguiller, c'est là où vous habitez depuis toute votre vie ?
Oui, quasiment, puisque j'ai habité toute mon enfance dans les petites cités-jardins qui ont été remplacées par ces grands immeubles. Depuis 91, depuis le décès de ma mère, j'habite ici.
Et là, on est au 13e étage de la tour, oui. Et vous avez une vue magnifique avec une petite terrasse.
Ça, c'est la banlieue, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, en face, nous avons Romainville. Bagnolet à droite.
Et en revanche, on ne voit pas Paris parce que Paris est derrière.
Paris est de l'autre côté.
Imaginez quand même, on est en 1974, il y a une éternité, dans la France de Giscard et de Pompidou. Une femme, la première en France, se présente à l'élection présidentielle et c'est une révolution. Elle remplira à 6 reprises, porte-parole inlassable de la classe ouvrière, Trotskyist Forever. Elle suscite la sympathie et parfois les moqueries, devient une vedette populaire chantée par Souchon. Elle a même sa marionnette au guignol de l'info. Insoumise, rebelle, elle dit que le militantisme aura été toute sa vie, depuis la première grande grève au Crédit Lyonnais, au début des années 70, alors qu'elle était employée. Elle y fera d'ailleurs toute sa carrière au Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, octogénaire, elle n'a perdu ni sa fougue ni ses convictions. Elle nous a reçus au Lila, où elle habite depuis toujours, au 13e étage d'une tour. On ne quitte pas son enfance. Arlette Laguiller est notre invitée. Arlette Laguiller, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Je ne pense pas que je sois une femme puissante. Pour moi, la puissance que je pourrais représenter, c'est si les travailleurs se mettaient en lutte. Oui, là, je représenterais peut-être une certaine puissance, la puissance de la classe ouvrière, de mon camp, de celui des travailleurs. Oui, mais en soi, comme ça, c'est pas parce que j'ai fait de la politique que je suis une femme puissante, je ne crois pas.
Mais tout de même, quand en 74, au moment de la fameuse grande grève, vous êtes employée du Crédit Lyonnais, et vous faites cette grande grève, vous êtes porte-parole, c'est à ce moment-là que tout le monde va vous remarquer, vous allez faire plier la direction, à ce moment-là, vous vous sentez puissante ?
La grève a duré 2 mois. Je prends la parole devant les grévistes avec tous les jours la boule au ventre parce que j'en cache pas que moi. J'engage des hommes et des femmes qui ont des familles, des difficultés, mais qui sont prêts à se battre. Et alors là, c'est pas de la puissance que je ressens.
C'est
pas du tout. C'est de la responsabilité.
C'est plus ça.
C'est plus la responsabilité que la puissance. Parce que, bien sûr, ce que je dis est important, l'orientation que j'essaye de donner pour que notre grève soit démocratique, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le nombre de grévistes et le fait qu'ils aient tenu aussi longtemps.
Mais quand même, dans la France où vous naissez, Arlette Laguiller, en 1940, votre mère, les femmes n'ont pas le droit de vote. Et vous, 30 ans plus tard, vous êtes la première femme à vous présenter à l'élection présidentielle en France. C'est puissant quand même, c'est symbolique. À ce moment-là, vous êtes puissante.
Bon, je veux bien reconnaître que j'ai mis un petit coup de pied dans la fourmilière, bien sûr, puisque c'était assez curieux. D'ailleurs, en 74, après ma première intervention où je dis que je suis une femme et que je concours dans cette république d'hommes, le lendemain, tous les autres candidats se mettent à parler des femmes. C'était quelque chose d'absent dans la campagne, dans leur propagande. Mais là, d'un seul coup, les femmes deviennent, sinon puissantes, importantes.
Donc, vous êtes un vecteur de cette puissance des femmes aussi. Vous y avez contribué.
J'ai contribué, c'est vrai, j'ai contribué.
Quand vous présentez votre candidature en 74, vous avez conscience de transgresser à ce moment-là, de bousculer l'ordre établi, de faire quelque chose d'historique d'une certaine manière ?
D'historique à l'époque, non, ça. Je suis heureuse parce que je me dis enfin une femme, c'est moi. Mais voilà, mais je suis fière et je suis fière de mon parti, de Lutte ouvrière. Ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être une autre femme que moi, bien sûr, mais le fait qu'on ait choisi une femme, ça me rend fière de militer dans un tel parti.
Et à ce moment-là, chez Lutte ouvrière, c'est une évidence que ce sera vous qui allez être candidate, ou il y a des débats, on dit non,
c'est
pas une femme.
C'est pas une évidence, disons qu'il y a 2 femmes, moi et une autre camarade qui travaille dans la chimie, et un homme qui travaille chez Renault. Voilà. Mmh. Et le choix de mes camarades, ça va être moi. Voilà.
Et ça vous fait plaisir à ce moment-là ?
Oui, bien sûr.
Et ça vous fait peur aussi ?
Ah ça, oui, pour me faire peur, ça me fait peur. Alors, pas peur au sens d'exercer mes responsabilités, puisque, vous savez, les exercer dans la grève, c'est quand même une sacrée implication. Donc, j'ai pas peur de cette implication. Mais c'est vrai que les médias vont me faire peur. Voilà, j'ai jamais fait ça, d'aller à la télé. J'ai été une fois à la télé en 73 pour représenter Lutte ouvrière, qui présentait des candidats en 71 à l'époque pour les législatives.
Alors justement, on a l'extrait. On a retrouvé votre première télé au JT de 13h de l'ORTF.
Ah, d'accord.
Et on va vous écouter.
Les femmes subissent effectivement une double exploitation. La double journée de la femme, c'est pas une formule pour les élections, c'est une réalité quotidienne. C'est que les femmes, non seulement, elles se lèvent peut-être encore plus tôt que les hommes pour préparer les enfants ou finir le ménage ou laver ou repasser ou faire tout ce que vous voulez qu'elles n'ont pas eu le temps de faire la veille. Et quand elles rentrent le soir, c'est la hantise de faire les courses, de faire le repas. Voilà, c'est ça la vie de la femme travailleuse.
La double journée des femmes.
La double journée des femmes. J'ai découvert maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, on appelle la charge
mentale.
Mentale.
Ouais.
Voilà.
Donc vous imposez le sujet des femmes dans la campagne présidentielle de 1974, quand personne n'en parlait.
Voilà, c'est ça.
Vous aviez rêvé enfant d'être présidente de la République ?
Pas du tout. Pas du tout. Ah non, alors là, pas du tout. J'avais rêvé de m'en sortir, de sortir ma famille qui avait des difficultés. Donc, en fait, j'avais rêvé de trouver vite un emploi.
Et pas du tout d'être présidente.
Et pas du tout d'être présidente. Mais j'ai assumé, parce que pour une petite organisation, faire connaître au moins une figure, c'est très difficile. Donc, c'est la répétition, finalement, de ces candidatures qui a fait, en quelque sorte, ma notoriété. Parce que si je m'étais présentée qu'en 74, et puis après c'était fini, tout le monde m'aurait oublié. Et je crois que c'est cette constance que mon organisation a tenue à ce que une femme continue à les représenter, hommes et femmes, qui fait qu'aujourd'hui j'ai une petite notoriété.
À quel moment vous avez compris que vous aviez cette notoriété? Que vous étiez même devenue un peu une vedette? À quel moment vous l'avez ressentie?
Oh, dès la campagne de 74, j'ai senti que ma vie serait plus jamais comme avant. J'ai pas pensé à la notoriété, mais qu'on me reconnaissait dans la rue, que je fais faire un peu attention, même sur le plan de ma sécurité. Enfin, plein de choses, quoi, qui me sont tombées dessus, en quelque sorte, et que j'ai découvertes.
Vous vous êtes portée candidate 6 fois donc à la présidentielle avec des scores qui ont varié entre 2 et presque 6% en 95 et en 2002.
Oui.
On avait noté que c'était un excellent score parce que vous aviez fait au-dessus des 5%. Oui. Mais globalement, vous n'avez pas fait des scores faramineux. Est-ce que ces scores-là ont entamé votre confiance en vous ?
Ah non. Vous savez, pour une organisation révolutionnaire qui propose de renverser la société capitaliste pour en construire une autre, non, c'est pour nous, c'était un sacré encouragement à continuer notre combat, c'est évident, à le continuer dans les entreprises, dans les quartiers, et d'essayer d'avancer. En 95, j'ai même fait appel à mes électeurs pour qu'ils me rejoignent dans ce parti qu'on essayait de construire. Pas eu vraiment un gros succès.
Ils sont pas venus.
Ils sont venus en partie, mais pas pour qu'on franchisse un bond d'être vraiment un parti implanté dans toutes les entreprises, dans toutes les villes, voilà.
À chaque femme puissante, je demande un objet qui incarne la puissance des femmes. Qu'est-ce que vous avez choisi, Arlette Laguillière?
Alors, j'ai choisi une photo de femme qui travaille dans le textile à Petrograd.
On est en 1917, là, sur cette photo.
On est en 1917, et...
Elle défile toutes ces femmes, là,
elle défile toutes ces femmes russes, oui. Et, en fait, c'est le début de la révolution russe. Mais personne ne le pressent vraiment. Et les femmes y vont. Elles y vont toutes seules, dans un premier temps, et elles vont envoyer des délégués femmes chercher les mécanos, chercher les hommes, pour dire « Vous devez être avec nous ». En fait... Ce premier jour, d'abord, les Cosaques vont pas tirer sur les femmes, ce qui est assez extraordinaire. Et dès le lendemain, en fait, de tous les faubourgs ouvriers de Petrograd, les ouvriers de toutes les usines, hommes et femmes confondus, descendent dans la rue. Ça va être le début de la révolution russe.
Donc, pour vous, elles sont précurseuses, ces femmes,
voilà.
Elles sont puissantes et elles ont...
Ah ça, oui. C'est vraiment des femmes qui ont eu ce courage. Voilà.
Est-ce que vous diriez, Arlette Laguillière, qu'il y a une manière féminine d'exercer le pouvoir ?
Je ne crois pas. Je ne sais pas en réalité, parce que j'ai des camarades hommes qui ont mené des mouvements sociaux importants, qui, à mon avis, les ont aussi bien dirigés que moi j'ai essayé de diriger, c'est-à-dire de façon démocratique.
Mmh. Donc vous soyez homme ou femme, vous ne voyez pas la différence.
Non, parce qu'on est des militants et des militantes révolutionnaires, et que ce qui compte pour nous, c'est que ce soit vraiment la population qui prenne son sang, au moins que ce soit vraiment les ouvriers qui dirigent leur grève jusqu'au bout.
Mmh. En tout cas, Alain Souchon, lui, trouve que vous avez une manière à vous, une manière singulière, sincère peut-être, de faire de la politique. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes une femme ou pas, mais il l'a chanté.
J'aime beaucoup voir Arlette Laguiller arriver à chaque présidentielle et faire ses discours. Je trouve que c'est une des seules personnes avec l'abbé Pierre qu'on voit parler. On la voit nous parler sans vouloir nous vendre quelque chose qu'on achète. Elle a envie que la société soit différente, soit changée, qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice. Et elle le dit avec foi et passion. Et je trouve ça assez beau et rare.
Quand Arlette chante, c'est de la verdure sur un monde difficile dur. Les paroles, bien sûr, ont un peu d'usure, mais elle chante avec un air pur. Elle utilise la fraîcheur mentholée, le peppermint pour donner son idée, de partager les blés et les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau.
Léa Salamé.
Souchon qui chante Arlette, ça vous a fait plaisir ?
J'ai rien demandé. Mais moi, je peut-être trouvé un petit côté un peu paternaliste, d'une certaine façon, un peu la petite gentille, quoi, vous voyez ? Pourquoi je l'ai touché ? Je l'ai pas convaincu, je l'ai touché. Alors pourquoi ? Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai touché. Parce que, vous savez, souvent à la télévision, on me voyait comme une aboyeuse. Hein. Il y a le fameux épisode de Bijard qui disait « faut la marier avec un parachutiste, ça va la calmer ».
La donc, petite Laguiller.
Oui, j'avais pas l'impression d'être quelqu'un qui apparaissait comme douce.
Comme ce qu'il chante là.
Comme ce qu'il chante. Mais voilà, mais on sait pas qui t'est fâché du tout. De toute façon, alors là, j'ai aucune envie de censurer une quelconque chanson, même si j'en avais pas été vraiment satisfaite.
Mais vous lui avez dit,
c'est pas une commande de ma part.
Non, mais vous lui avez dit, je trouve ça un peu paternaliste. Vous lui avez dit la vérité ?
Je lui ai peut-être pas dit comme ça. Je lui ai peut-être dit que, bah oui, c'était un peu le côté gentil, quoi, qui me surprenait.
Mais vous n'êtes pas gentil ?
Ah, ça dépend avec qui. Je peux être très gentille, mais je peux être très en colère et en tout cas combattante.
Ouais. Mais cette image, ce qu'il chante là, moi je l'ai lu dans des portraits de vous, de Libération, la révolutionnaire un peu gentillette, un peu ringarde.
Oui, bah c'est courant de dire que les idées révolutionnaires sont ringardes. Par des gens qui croient à quelqu'un qui est né il y a plus de 2000 ans. Et... c'est assez curieux, quoi. Ce qui est anachronique, ce qui est ringard, c'est pas nos idées, c'est comment la société évolue mal. C'est ça qui est ringard, qui est pas normal au XXIe siècle. Mais pas les idées des révolutionnaires.
Elles sont pas ringardes.
Ah, pas du tout.
Vous n'êtes pas ringarde.
Non, je ne pense pas. En tout cas, mes idées ne le sont pas.
Mais vous dites, je l'ai touché, mais je ne l'ai pas convaincu. Est-ce que c'est pas ça, au fond? Vous avez touché peut-être beaucoup de monde, Arlette Laguiller.
Oui, oui.
Mais je ne sais pas si vous en avez convaincu beaucoup.
Un peu, mais oui. Pas beaucoup, non, parce que on reste un petit parti, une petite organisation. C'est pas faute de se présenter aux élections. On est présent, on a des soutiens.
Mais c'est quoi,
on
alors?
On a des adhérents,
C'est que les Français sont pas assez radicaux, pas non, assez prêts à la révolution?
C'est pas les Français en général. Les Français, je sais pas. La classe ouvrière, actuellement, elle est plutôt un peu tétanisée, abasourdie. Les gens travaillent dans les boîtes, et puis ils sortent, ils ont plus qu'à rentrer chez eux. Enfin, la vie est difficile, et c'est pas une période combative, quoi, c'est certain. Mais il y a eu des luttes, il y a eu des grèves, il y a eu... Mais vous savez, nous, on a commémoré les 150 ans de la Commune. Personne s'y attendait à la Commune.
Il peut y avoir un grand soir sans
bien sûr, bien sûr.
Ségolène Royal raconte qu'elle a été méprisée, qu'on la prenait pour une cruche quand elle faisait ses campagnes. Anne Hidalgo dit que la politique est un univers construit sur des codes faits par des hommes et pour des hommes. Elle dit avoir souffert d'un procès en illégitimité. Vous, ça ne vous est pas arrivé?
Je ne sais pas de qui elle parle. Est-ce que c'est dans leur parti qu'on les prenait pour des gourdes? Sans doute, oui. Bon, moi, j'avais pas ce poids-là, puisqu'au contraire, j'avais tout le soutien, quoi, de mes camarades. Donc, me suis jamais sentie contestée, mise en défaut.
Mais vous n'avez jamais souffert du sexisme,
non,
par exemple?
Non.
Jamais?
Jamais. Mais vous savez, on est sûrement une incongruité, lutte ouvrière, parce que on essaye, en tout cas, que même si, comme dans beaucoup de partis, nous n'avons que 30 à 35% de femmes. Mais on a toujours essayé, bien avant la parité, de faire que les femmes soient pas à taper à la machine ou servir le café quand les hommes parlent. Donc on a toujours propulsé en avant des femmes en disant « mais vas-y, tu feras aussi bien, vas-y ». Les femmes, des fois, faut les pousser, c'est vrai.
Pourquoi? Ben voilà. Pourquoi vous pensez que les femmes, on doit les pousser?
Parce que on vit depuis des siècles dans un patriarcat qui fait que bon, les femmes,
on a progressé quand même.
Oui, on a progressé quand même, mais ouais. C'est encore difficile pour les femmes de se dire je vais me mettre en avant. Bon, il y a une jeune génération qui a quand même l'air d'être quand je vois Nathalie Arthaud, sincèrement, je pense que
elle est moins timide que vous diriez?
En tout cas, elle assume vraiment bien.
Vous dites que vous n'avez pas souffert de sexisme au sein de lutte ouvrière.
Ouais.
Mais dans le regard de vos adversaires politiques, puisque depuis 1974, vous en avez fait des campagnes, comment ça s'est passé avec Giscard, avec Mitterrand, avec Sarkozy, avec Chirac, tous ceux que vous avez affrontés?
Vous savez, Léa Salamé, j'ai jamais été confrontée à tous les gens que vous venez de nommer dans une émission. On m'a jamais invitée face à ce qu'on appelle les pointures. Jamais. Mais bien sûr, j'ai affronté Fabius, Bérou, Xavier Bertrand, vous voyez, des gens comme ça, peut-être.
Et comment c'était avec eux?
Moi, j'ai jamais ressenti, en tout cas jusqu'à présent, de sexisme. Peut-être plus des mépris sociaux. J'ai pas de nom à citer parce que tout ça, d'ailleurs, se mélange un peu dans ma tête hein, au bout de 50 ans.
C'est quoi le mépris social? Comment on ressent cela?
Du genre, si vous aviez créé une entreprise, vous verriez ce que c'est d'être patron. Là, vous savez même pas de quoi vous parlez. Comme si les travailleurs, ils savaient pas de quoi ils parlaient. Ou alors, le Figaro qui écrit, elle est sûrement très bonne dactylo, mais qu'elle reste à sa place. Voilà. Alors, ce mépris-là, oui, mais je trouve qu'il est plus social que sexiste. Il se trouve, remarquez que c'est toujours les filles qui étaient dactylo la plupart du temps.
Bah oui. Hein?
Alors, ça avait un côté sexiste aussi, finalement.
Ouais. Vous auriez aimé rencontrer Mitterrand ou Giscard, les voir à l'Élysée
Non, j'ai pas du tout éprouvé ce besoin, alors là, pas du tout. Je connaissais leur histoire, je les ai dénoncés d'ailleurs dans mes discours, mais j'avais pas besoin de les rencontrer pour savoir ce qu'ils étaient politiquement et socialement.
Pourquoi, malgré la loi sur la parité, les femmes en politique sont si peu nombreuses, en tout cas aux postes les plus importants? Parce que c'est trop violent, la politique, à votre avis?
Je crois qu'il y a un problème qui est quand même pas réglé, en tout cas pour les femmes de la classe ouvrière ou disons de milieu modeste, c'est que les femmes, elles continuent à assumer l'essentiel d'abord de la maternité, puis d'élever les enfants. Et bien souvent, c'est quand même ce choix-là qu'elles font. Bon, dans les jeunes couples modernes, peut-être que c'est un peu en train de changer, j'en sais rien. Mais moi, toute mon expérience, c'est ça, c'est que les femmes sont retrouvées coincées.
Pour vous, la maternité, c'est ce qui bloque le parcours, la carrière,
oui,
ou l'engagement politique ?
On en est à la parité peut-être pour les élections, mais on n'en est pas à la parité pour élever les enfants, pour partager les tâches également entre les hommes et les femmes. On n'en est pas là du tout.
C'est pour ça que vous n'avez pas voulu avoir d'enfants ?
Oui, sans doute un peu, mais moi, j'ai jamais vraiment eu un désir d'enfant. Je suis pas la seule.
Hein. Non, pas du tout.
Je connais y compris des hommes qui n'ont aucune envie d'avoir des enfants.
Mais est-ce que l'idée que ça aurait pu bloquer votre combat politique, ça a joué ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous vous êtes dit, je tiens trop à la lutte pour les travailleurs,
oui.
Pour qu'un enfant vienne empêcher cela. C'est ça que
militer
vous disiez ?
Militer à un certain niveau... Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis sortie de l'école avec le brevet élémentaire, comme on appelle maintenant le brevet des collèges. Mmh. Et j'ai dû beaucoup travailler quand même pour acquérir une certaine compétence historique, politique, sociale. Même connaître toute l'histoire du mouvement ouvrier que je connaissais pas. Enfin, vous voyez, il fallut que je me forme, quoi, c'est sûr. Et puis, vous savez... J'avais envie vraiment qu'on réussisse, que ce parti, on arrive à le construire et qu'il pèse dans la vie politique. Et à ce moment-là, c'est quasiment 24-24. Enfin, vous comptez pas vos heures. Dès que des gens veulent discuter avec vous, veulent vous rejoindre, vous rencontrer,
Il n'y a pas la place pour la maternité.
Bon, en tout cas, pour moi, je dis ça. Vous m'interrogez, moi.
Oui, vous.
J'ai des camarades qui sont des très bonnes militantes et qui ont réussi à élever des enfants, bien sûr.
Mais pour vous, ça aurait été un frein.
Bon, il y avait à la fois ça, et puis j'y pensais pas trop, quoi. Mmh. Bon, des fois, quand on est bien avec quelqu'un, on pouvait se dire peut-être que ça serait bien. Enfin, je voyais tout de suite les problèmes, je les connaissais. Vous savez, moi, j'ai un peu élevé mes frères. Je sais ce que ça demande comme temps et comme dévouement.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Vous êtes pour les quotas, pour la discrimination positive ?
J'ai longtemps été contre, et d'ailleurs Gisèle Halimi était désespérée de pas me convaincre de signer avec elle, puisqu'elle essayait de faire une loi pour la parité. Et moi, je disais non, les femmes, elles sont aussi capables que les hommes, faut qu'elles se battent pour y arriver, voilà. J'étais pour des femmes combattantes. Finalement, je me suis rendu compte que il n'y a pas que lutte ouvrière sur Terre et que dans beaucoup de partis, s'il n'y avait pas eu cette loi sur la parité, les femmes qui militaient, elles n'auraient pas été tellement représentées dans les instances dirigeantes.
Donc vous avez changé d'avis. Vous êtes pour les quotas maintenant.
D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que j'aurais voté si j'avais été élue à l'Assemblée nationale ? Peut-être que je l'aurais voté, finalement. Mais au début, ça me heurtait un peu.
À faire des quotas d'égalité.
D'égalité.
Et que ce soit imposé par la loi, que ce soit pas naturel.
Ouais, voilà. Et que les femmes ne se battent pas. Moi, je veux des femmes, pas qui pleurent, qui soient combattantes, qui se battent dans tous les domaines.
Vous n'aimez pas les femmes victimes. Vous voulez qu'elles soient puissantes, d'une certaine manière.
Je les aime pas. Je les plains et je les soutiens, mais... Oui, qu'elle soit puissante, après tout, c'est le bon mot.
Ah, vous voyez, je vous ai convaincue. Vous parlez souvent du sexisme des médias à votre rencontre. Vous citez l'exemple de L'Heure de vérité. On est en 1995 et on vous pose ce genre de questions.
Avant de sortir d'ici, vous allez enlever ce très léger maquillage qu'on vous voit pour la première fois ou vous allez le garder ?
Écoutez, je ne sais pas, j'y ai pas trop pensé. C'est pas trop de ça dont j'espérais qu'on allait parler ici.
Monsieur Fidel Castro est actuellement à Paris. C'est votre type d'homme, monsieur Castro ?
J'aime pas trop les barbus, en général.
Vous ne sentez pas visé, hein ? Vous voyez qu'il y en avait quand même du sexisme.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand on vous demande si Fidel Castro est votre type d'homme et si vous allez enlever le léger maquillage qui couvre votre visage ? On est en 95 quand même, on n'est pas dans les années 50.
Non, mais je trouve qu'ils se ridiculisent eux-mêmes. Enfin, je crois que ça a plutôt choqué les gens qui regardaient.
C'est vrai qu'il y a eu un débat des candidates qui était organisé par une chaîne de télé au début des années 80 où ils voulaient faire le débat subalterne uniquement des femmes. Vous, Marie-France Garraud, C'est vrai, ça ?
Il y a eu ça, mais je crois pas y être. Je me rappelle pas.
Vous l'avez refusé, je crois.
Ah, bah,
vous avez refusé d'y aller.
Vous voyez, j'avais oublié ça. Oui, oui. Bah oui, c'était un peu nous mettre dans une case à part, quoi. On n'était pas des vrais politiques. Vous me rappelez des choses.
Le zap.
Arlette Laguiller, 32 ans.
Arlette Yvonne Laguiller.
Célibataire.
Arlette n'étant pas très moderne, vos parents se sont dit « On va mettre Yvonne en deuxième prénom ».
Membre du bureau directeur de lutte ouvrière, cette jeune femme est avant tout une militante. Son portrait sera celui d'une militante.
Ce qui m'a frappé quand on était enfant, c'est le sens des responsabilités qu'Arlette a eu jeune.
Mon père était un ouvrier. Enfin, il a fait un peu tous les métiers. Il était employé, il était manœuvre, en étant chômeur, malade. Enfin, j'étais une famille ouvrière, quoi.
Ce qui lui inspirait, disons, l'estime des gens du quartier, qu'il appelait la petite mère.
1972, la consolide dans l'idée qu'elle appartient à une famille toujours plus grande et toujours plus unie.
Travailleuse, travailleur.
Celle des travailleurs révolutionnaires.
Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. Travailleuse, travailleur, faites du premier tour un avertissement. Aux possédants, aux politiciens à leur service et à ceux qui rêvent d'y être, votez lutte ouvrière.
Et puis on reparle d'Arlette Laguiller.
Surfeur, surfeuse, bodybuilder, bodybuildeuse, on vous ment, on vous spolie.
Arlette à Malibu.
L'inamovible candidate trotskiste à la présidentielle pour la cinquième fois.
Éternelle Arlette, on sort de sa boîte tous les 7 ans pour la présidentielle.
Mes idées ne sont pas périmées.
Comme les boules à Noël pour décorer le sapin.
Vous allez me revoir, hein?
Passionnariat de lutte ouvrière, petite fiancée de Lénine, starlette de la classe ouvrière, c'est comme ça qu'on vous surnomme dans les portraits de presse. Vous en pensez quoi de ces qualificatifs? Ils sont justes ou ils sont faciles et un peu condescendants?
Oh, ils sont un peu bébêtes quand même. Fiancée de Lénine, fiancée de Trotsky, je les ai tous celui-là. Non mais, enfin, je sais pas, c'est un certain mépris pour les idées parce qu'on... On a le droit, de, contrairement à moi, de ne pas être d'accord avec Lénine ou avec Trotsky. Mais c'était des pointures. Enfin, j'ai tout Lénine là-haut, j'ai tout Trotsky, ou presque.
Ah oui.
Et franchement, on peut relire ça aujourd'hui.
Votre bibliothèque, c'est Lénine et Trotsky, c'est les intégrales.
Enfin, ceux-là, c'est les intégrales. Là, j'ai bien autre chose, bien sûr. Mais Trotsky est même un très grand écrivain.
Il n'y a que de la révolution russe, en veux-tu, en voilà.
Alors oui, bah, c'est classé un peu... Dans la chambre, j'ai les autres pays, l'Angleterre. Là, j'ai les États-Unis. Là, j'ai l'Allemagne. Là, après,
ah oui, donc moi, je suis au-dessus de la Russie. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça. Et vous avez un ordinateur? Vous êtes bonne en ordinateur?
Oh, ça me sert. Hein. Mais je suis pas très geek, mais bon, je me débrouille.
Vous surfez sur Internet?
Ah oui, bien sûr. Oui.
À chaque femme puissante que j'interviewe, je demande une chanson qui incarne pour elle les femmes puissantes. Vous avez choisi ça, Arlette Laguiller.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Sardinière, 1924. Pourquoi cette chanson?
Bah, parce que ce sont des femmes qui se rendent puissantes par la grève. Il y a des récits absolument terribles sur les conditions de travail de ces femmes qui sont pas payées, qui vivent dans une odeur pestilentielle toute la journée et qu'en peuvent plus. Alors, faut dire, 1924, c'est 7 ans après la révolution russe, Douarnenez est la première mairie communiste en France. Et elles ont le soutien, finalement, de la municipalité, ce qui va les aider, parce que ça va être très dur de faire reculer. Et en lisant un peu sur la question, j'ai vu que ce que je ne savais pas, que c'était des capitalistes de Nantes qui avaient fait fortune avec la traite des Noirs et qui ensuite ont investi dans la conserverie de sardines et qui n'étaient pas plus tendres... avec les femmes travailleuses qu'il avait été avec les Noirs dont il faisait le commerce.
Donc cette chanson vous touche
particulièrement. Elle me touche à plein de points de vue, ouais.
Vous la connaissez par cœur, vous connaissez les paroles?
Non, je la connais pas par cœur.
Parce que vous aimez bien chanter, j'ai vu que dans plusieurs émissions de télévision, vous avez poussé la chansonnette.
Oui, oui, puis j'ai beaucoup chanté dans ma vie, pas seulement les chants révolutionnaires, mais j'ai plus de voix, je perds un peu la mesure, enfin voilà, faut pas vieillir, même la voix vieillit. Mais quand c'est en groupe, ça va, voilà.
Vous avez cité Gisèle Halimi, c'est un de vos modèles, c'est quelqu'un que vous aimiez particulièrement?
Oui, je l'aimais beaucoup. D'abord, ce courage qu'elle a eu de défendre les accusés du FLN, le courage qu'elle a eu pour faire reconnaître le viol.
Alors ça, c'est le fameux procès, le procès d'Aix-en-Provence en 1978.
Voilà. Oui.
Elle va vous demander de témoigner à la barre.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes allé dire à la barre?
J'étais allée dire qu'il fallait au moins autant de respect pour le corps des femmes qu'on en avait pour les coffres-forts des banques, parce que quand une banque était volée, on faisait justice. En gros, je me souviens plus très bien des paroles, mais l'idée était celle-là. Bon, mais comme vous le savez sans doute, j'ai pas eu le temps, on m'a tout de suite expulsée. Voilà. Et Gisèle Halimi s'est précipitée pour me défendre contre les huissiers, mais...
Ils vous ont foutu dehors.
Ils m'ont mis dehors.
On écoute Simone Veil à l'Assemblée nationale en 1974 sur l'IVG.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Vous l'avez admirée, Simone Veil, même si elle n'était pas de votre camp sur ce point-là?
Oui, bien sûr. Évidemment, là, elle portait tout un combat que j'avais mené, moi, à la base, avec bien d'autres personnes, avec des hommes presque autant qu'avec des femmes, quand même.
C'est-à-dire qu'il y avait des médecins hommes?
Il y avait des médecins hommes qui faisaient des avortements pour dépanner des femmes qui pouvaient pas aller en Hollande ou en Angleterre, qui avaient pas les moyens de ça. Et puis qui se sont battus avec nous dans les manifestations. Ça, je tiens à le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un peu une tendance à dire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et sans doute, les femmes se sont plus mobilisées, elles en avaient plus besoin, mais elles ont été quand même soutenues par pas mal d'hommes, heureusement.
Donc Simone Veil, à ce moment-là, vous avez de l'admiration pour elle?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous l'avez rencontrée?
Non, jamais.
Vous auriez aimé?
Peut-être, oui, peut-être.
On parle de Gisèle Halimi, on parle de Simone Veil. Est-ce que vous avez un modèle de femme qui vous a guidé, vous?
Dans l'histoire, j'ai beaucoup d'admiration pour Rosa Luxembourg, c'est évident.
Pourquoi?
Parce que elle est à l'égal de Lénine ou Trotsky. Bon, d'abord, elle a été assassinée par la social-démocratie. Ça, c'est quelque chose qui a aussi engagé mon combat dans un autre sens que d'aller, par exemple, au PS quand j'étais jeune. Et en plus, c'est une bonne écrivaine. Hein, quand elle écrivait, même quand elle était en prison et tout ça, c'est assez formidable.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement MeToo?
Écoutez, je veux dire comme tout le monde, c'est bien que la parole sorte, c'est bien que toutes les femmes qui ont souffert de Weinstein ou d'autres puissent se défendre, puis pas seulement les femmes d'ailleurs, hein, je dois dire qu'il y a aussi un certain nombre d'hommes qui ont été violés, violentés, et que tout ça s'exprime, se dise, que les gens peut-être réussissent à peut-être pas oublier, mais en tout cas, je sais pas comment on dit pour ça, on dit faire le deuil pour la mort, mais en tout cas faire le deuil d'avoir subi ça. C'est un mouvement qui est important de ce point de vue-là, qui libère vraiment, je crois qu'il libère la parole, oui.
Ouais.
Tout simplement.
Et vous dites, aujourd'hui, de nos jours, on sépare les hommes et les femmes. Vous le regrettez, ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une confrontation entre les hommes et les femmes aujourd'hui?
C'est-à-dire, non, une confrontation, je dirais peut-être pas ça. Bon, bien sûr, il y a des féministes qui pensent que tous les hommes sont des violeurs, enfin, ce qui est une aberration quand même. Mais alors, si vous voulez, il y a certains pays où je comprendrais que les femmes se réunissent entre elles et que ce soit le seul moyen pour elles de parler de leurs problèmes. Mais en France, en tout cas nous, à l'histoire, on n'a jamais ressenti la nécessité de réunions non mixtes.
Vous aimez la mixité ?
Oui. Puis, bon, je vous dis, je comprends que certains en éprouvent le besoin, ou certaines. Je dis certains parce que nous dit aussi maintenant que des gens de couleur ne peuvent se réunir qu'entre eux ou que...
Ça, vous avez du mal à comprendre.
Oui, j'ai du mal à comprendre parce que moi, je défends les intérêts d'une classe ouvrière qui est composée de gens qui viennent de tous les pays ou dont les parents viennent de tous les pays. Pour moi, c'est une seule humanité. En tout cas, c'est une seule classe ouvrière. Et d'ailleurs, quand il y a des mouvements dans les entreprises, tout ça disparaît parce que les travailleurs luttent ensemble, quelle que soit la couleur,
le genre,
la religion. Aussi. Finalement, la lutte de classe, je trouve, c'est la seule manière de réunir tout le monde en réalité.
Elle rassemble
dans la classe ouvrière. Ouais.
Puisqu'on parle de MeToo, vous avez déjà subi du harcèlement, voire à l'Aiguillé, vous avez déjà été harcelé par un homme, par des hommes ?
Non. Non.
Non. Jamais.
Honnêtement, non.
Ils avaient peur de vous ?
Peut-être. Vous savez, faut pas croire, mais moi j'avais 16 ans en 56. J'allais danser dans les boîtes de jazz avec ma copine et on s'est toujours fait respecter. Enfin, je sais pas. C'est une autre époque, peut-être, que on sortait de la guerre. On avait envie de vivre, de, quand des gars nous plaisaient pas, on les virait de notre milieu, quoi. On était quand même féministes sans le savoir, je pense, tout simplement. On se laissait pas marcher sur les pieds.
Ouais. Vous avez jamais été embêté?
Non, mais on était souvent attaqués par des bandes de gars, quoi. Parce que ils avaient repéré une fille ou deux qui leur plaisait bien. Et on se battait, même physiquement.
Physiquement?
Ouais, bien sûr.
Vous vous battiez?
Moi, je me revois avec mon petit frère que je tenais comme ça,
Vous utilisiez votre frère comme une arme et vous tapiez avec...
Absolument. On était habitués à se défendre.
Même physiquement?
Même physiquement, c'est pas qu'on est, on n'était pas spécialement costaud ni sportive, mais on se laissait pas faire, quoi.
Ouais. Vous êtes pour se battre physiquement, vous ?
Dans la mesure du possible, bien sûr. Je vais pas accuser une femme qui va se faire violer sous la menace d'un couteau de pas s'être battue, bien sûr. Mais quand c'est possible, faut se défendre. Il y a que ça, quoi.
Alors, votre enfance, Arlette Laguiller, vous avez grandi en banlieue, là où on se trouve, là, au Lila.
Oui.
Nous étions pauvres, dites-vous. C'est là que j'ai découvert la lutte des classes.
Oui, parce que déjà à l'école... quand vous êtes très pauvre, que vous avez la cantine gratuite parce que vous êtes très pauvre, vous sentez pas pareil que c'était pas des grands bourgeois, mais la fille du pressing du coin ou du marchand de viande du coin, vous voyez, qui était dans la même classe que vous et qui avait des bas nylons alors que vous étiez encore avec des chaussettes. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses.
Vous écrivez dans votre autobiographie, c'est toute ma vie, c'est le titre de l'autobiographie, vous écrivez « J'avais honte ». J'avais honte de la manière dont j'étais habillée. J'avais honte d'être dans le groupe des assistés qui avaient droit à la cantine gratuite. J'étais affreusement embarrassée quand, chez la boulangère ou chez l'épicière, je prononçais le fatidique « Vous le marquerez, s'il vous plaît », qui signifiait que je ne pouvais pas payer le montant de mes achats.
Tout à fait, oui, oui. Ça a été assez dur pour moi, et comme c'est moi qui faisais les courses, oui, ça a été une période un peu difficile. Heureusement, j'avais les livres...
Vous lisiez beaucoup ?
Oui, je me plongeais beaucoup dans les livres.
Pour échapper à la réalité ?
Oui, je pense, à l'époque, oui.
Et c'est cette honte-là qui vous a donné l'aplomb pour vous engager ainsi ? Pour vous en sortir ?
Je suppose. Je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais je suppose que oui, quoi. La réalité de la vie des gens pauvres. Puis vous savez, je n'étais pas la seule. On était un petit immeuble à l'époque... de 3 étages, mais à chaque étage, il y avait des gens dans le besoin et dans la nécessité. Une ouvrière d'usine dont le mari buvait, des gens qui avaient pas d'argent parce que le père avait un cancer, travaillait plus. Enfin bon, j'ai connu tout un milieu, quoi, qui souffrait. Et puis même mon père, quand il trouvait du travail et qu'on le ramenait sur une civière parce qu'il supportait pas de porter des poids trop lourds... Donc tout ça, oui, enfin sûrement, ça m'a forgé une révolte. Ça, je pense que oui. Maintenant, vers quoi la diriger ? Mais n'empêche que j'étais sensible au malheur de l'humanité et que la guerre d'Algérie, ça a commencé comme ça.
D'abord, la guerre d'Algérie, c'est le moment où vous vous réveillez politiquement ?
Voilà, c'est ça. Toute la bande de jeunes qu'on est, qui nous retrouveront au café autour du baby-foot, On parle de ça, on discute de ça, on lit les journaux comme l'Express ou l'Observateur qui font des récits un peu dans le sens contre la guerre, pour certains. Donc voilà.
Vous forgez votre conscience politique voilà. Avec l'Algérie.
Avec, ouais. Vous dites... Et je vais manifester en 60. Là, la première manifestation faite, d'ailleurs, grâce aux étudiants, grâce à l'UNEF.
Vous dites, je dois beaucoup à mon père. Vous lui devez quoi ?
Bah, d'avoir été un homme cultivé et qui lisait, qui s'intéressait à la politique et qui a sûrement fait que je m'y suis intéressée également.
Il vous a donné le goût de lire, votre père ?
Ah oui, tout à fait. Oui. D'abord, il avait des livres, c'était la première chose. Dans les appartements de mes amis, il n'y avait pas de livres. D'ailleurs, il venait chez moi.
Pour vous piquer les livres et les lire.
Que je leur prête des livres, oui. Oui, mon père, oui, c'est sûr que... Là aussi, c'est une prise de conscience, parce que il est revenu complètement esquinté de la guerre. Rapatrié sanitaire, et il s'en est jamais vraiment remis. Il est mort très jeune, d'ailleurs. Il est mort à 63 ans. Voilà, tout ça, oui, j'avais... On aurait pu penser que c'était l'inverse, mais j'avais de l'admiration pour lui, bien qu'il puisse pas vraiment faire bouillir la marmite dans le foyer, quoi.
Et il avait de l'admiration pour vous ?
Alors, le pauvre, je sais pas... Enfin, en 73, il m'a vu à la télé. Il a été content, il a été fier. D'ailleurs, ils ont eu leur première télé que je leur ai achetée en 73. Et mais il m'a fait un petit reproche.
Il vous a dit quoi ?
Qu'on n'avait pas donné assez d'exemples, que les prix augmenteraient trop par rapport au salaire, qu'il aurait fallu parler de ça. Est-ce qu'on peut pas agir sur les prix, quoi?
Il vous a trouvé trop abstraite.
Moi, je parlais surtout des salaires. Et voilà. Mais je crois qu'il a été content, quoi.
Vous parlez moins de votre mère?
C'est difficile pour moi parce que maman, elle aussi, c'est une victime de la guerre. Elle a été tellement marquée par les bombardements sur Paris, où bêtement, elle est retournée travailler après le bombardement qui avait complètement détruit l'immeuble en face de son bureau avec les gens. Elle a vu ça. Et elle s'en est jamais très bien remis mentalement, quoi. Donc c'était quelqu'un qui était à la fois formidable cuisinière, sachant coudre, me faisant... Comme on n'avait pas d'argent, me faisant mes affaires, les réparant, enfin tout. Mais on n'avait pas les mêmes échanges, bien sûr, qu'avec mon père, quoi.
Christine Lagarde dit que les hommes de sa vie ont eu du mal à accepter sa réussite. Est-ce que ça a été votre cas également à la Laguiller?
Je sais pas quelle réussite j'ai eu. Je parle pas en termes.
Mais non. Six fois candidate à l'élection présidentielle, il vous fait quoi?
C'est pas une réussite. C'est un engagement. C'est pas une réussite. Réussite, c'est... Je sais pas, c'est réussir.
C'est quoi réussite, tiens?
Bah, peut-être si j'avais été présidente de la République, ça aurait été une réussite. Mais non, là, c'est un acte militant que j'ai renouvelé. Mais voilà, c'est... La réussite, c'est peut-être d'avoir tenu si longtemps.
Et les hommes de votre vie, ils n'ont pas été jaloux de votre mise en lumière, si vous préférez ?
Non, non, je pense pas, non. Bah, en tout cas, pour mon dernier compagnon, il m'a plutôt aidé, quoi. Voilà, je dirais ça.
On vous a constamment demandé de vous justifier sur votre célibat, sur le fait que vous n'avez pas eu d'enfant. Écoutez, par exemple, là, on est en 87, vous êtes dans l'émission Bain de minuit face à Thierry Ardisson et il vous parle de ça.
Vous n'êtes pas marié, pourquoi? Parce que vous êtes contre l'institution du mariage?
Parce que j'ai pas eu envie de me marier, et je crois que je suis pas toute seule.
Non, mais est-ce que c'est idéologique?
Est-ce que c'est extraordinaire d'avoir envie de se marier?
Non, mais est-ce que c'est idéologique ou est-ce que c'est votre vécu comme ça? Vous dites non, j'ai pas envie de me marier.
Je crois que c'est mon vécu, je crois que c'est mon choix personnel.
Il y a une question qui me brûle les lèvres. Vous auriez pu être bonne sœur? Parce que finalement, les bonnes sœurs, elles défendent les pauvres aussi.
C'est drôle que vous me dites ça, parce que je crois que si vous aviez été un homme et que j'avais fait de la politique, vous ne vous permettriez pas de dire ça.
Pourquoi?
Vous dites ça parce que je suis une femme.
Non.
Et que les femmes,
mais
quand elles font de la politique,
si
automatiquement, on imagine qu'elles se sacrifient, que c'est un sacerdoce.
Il y a plein de...
Je ne me sacrifie pas.
Vous lui répondez bien. Hein.
Oui, oui, je crois. Je ne gomme rien, ça va.
Mais c'était violent, ça, toujours d'être ramené à oui. La bonne sœur laïque, oui, à votre célibat.
Oui, un peu, c'est un peu énervant, mais bon, voilà.
Ouais.
Là encore, ça prouve que, puisque vous êtes une femme, c'est pas pris au sérieux que votre vie, ce soit de faire de la politique, d'essayer de changer le monde. pour lui, sûrement, mon rôle, c'était de marier et d'avoir des enfants. Quoi. Il y a ça derrière.
Hein. Vous avez même été forcée, j'ai vu, d'accorder une interview à Gala ou je ne sais plus quelle presse people pour expliquer que vous n'étiez pas lesbienne.
Ah oui, parce que le bruit a couru. J'ai dit que ça me gênait pas, mais que non, je l'étais pas. Si je l'avais été, je pense que je l'aurais dit.
Et on a même été jusqu'à vous faire un procès en disant c'est l'idéologie de lutte ouvrière qui décourage les militants d'avoir une vie familiale pour ne pas les détourner de la cause, justement. Vous avez entendu ça? Vous avez dû répondre
bien sûr.
À ça?
Ben, j'ai dû répondre tout le temps.
Oui. Et c'était vrai ou c'était pas vrai?
Bah, lutte ouvrière, laisse libre ses militants. Mais elle dit pas à ses militants, faites des gosses et vous verrez comme ça va être facile de militer, surtout aux femmes d'ailleurs.
Hein. Vous n'aimez jamais parler de votre compagnon, pourtant vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps quand même, depuis 35 ans je crois. Vous n'aimez pas parler de lui?
Non, je ne veux pas et je supportais pas, dans le passé, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, qu'on présente toujours la femme d'eux. Je trouve que c'est pas mieux pour les hommes et qu'il n'est pas l'homme de Arlette Laguiller. Il est un homme. Ça va bien entre nous. C'est l'essentiel.
Il ne faut pas réduire les gens à leur compagnon,
à leur conjoint,
ou à leur épouse.
Ou à voilà. Leur époux, à leur compagnon.
Arlette Laguiller, vous avez plus de 80 ans aujourd'hui.
Oui, 80.
Je me permets de donner votre âge. Quand vous regardez vos photos de jeunesse, quand vous regardez votre première candidature à l'élection présidentielle, quand vous pensez à vous, quand vous dansiez dans les clubs de jazz, vous dites quoi aujourd'hui?
J'ai vieilli. Mais je me sens jeune dans ma tête et pleine d'espoir pour un avenir meilleur. Quoi. Ça, ça n'a pas changé. Et ça soutient quand même. Ces idées-là soutiennent.
Vous auriez aimé avoir 20 ans aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'elle est pleine de promesses, cette époque. Elle est pleine d'avenir, pour peu qu'on veuille s'en prendre un petit peu à tous ces affreux capitalistes qui se moquent de l'avenir de la planète, qui se moque de l'avenir de la classe ouvrière, bien sûr. Donc j'ai toujours ça dans la tête, qu'un jour on va changer tout ça et qu'on va faire une autre société plus vivable à tout point de vue.
Quelques questions de fin pour finir. Vous répondez spontanément, sans réfléchir, sans trop réfléchir.
D'accord.
La première femme présidente de la République en France, vous le verrez de votre vivant?
Oh, peut-être. Après tout, peut-être je vivrai jusqu'à 100 ans, j'en sais rien. Peut-être que je la verrai.
Liberté, égalité, fraternité, vous préférez quoi?
Oh, moi, j'aime les trois.
Ah non, faut choisir.
Oh! Ah, c'est dur. Non, on peut pas choisir. L'égalité peut pas aller sans liberté. Et la liberté ne peut pas aller sans fraternité.
Ouais, vous vous en sortez bien.
Ah,
mais bon.
Merci.
Avez-vous des vices? Avez-vous eu des vices? Alcool, drogue, sexe, Arlette Laguiller?
Non. C'est affreux. Hein. J'ai l'impression qu'on est parfaite. Non. J'ai jamais eu d'addiction, de tentation de ce genre. Non, pas d'addiction en tout cas.
Est-ce que vous acceptez de faire des selfies dans la rue quand on vous demande de prendre des selfies avec vous?
Ça, j'ai dû en faire des milliers, oui. Oui, bien sûr, j'accepte toujours.
Vous aimez bien ça?
Non.
Ah ouais?
Non, j'aime pas, mais je sais pas, peut-être là où je suis gentille.
Oui. La question Jacques Chancel, pour finir. Et Dieu dans tout ça?
Voilà. Il y a longtemps que je m'en passe, franchement.
Vous n'êtes pas croyante?
Non.
La mort, vous y pensez?
J'y ai un peu pensé avec le Covid, quand même. Avant, j'y pensais pas tellement. Sauf quand des êtres chers autour de vous meurent, on pense forcément un peu à sa propre mort. Mais c'était pas quelque chose qui m'obsédait. Bon, j'ai 81 ans, hein, je me fais pas trop d'illusions quand même.
Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous, plus tard?
Elle a toujours été fidèle à ses idées.
C'est une belle chute, on va dire. Merci beaucoup, Arlette Laguiller.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus chez vous, au Lila, dans votre appartement. Vous êtes là depuis plus de 30 ans et oui. Vous avez grandi dans ce même quartier.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci.